Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour redécouvrir la Bible à partir de récits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Avant de commencer, je veux juste prendre une seconde pour dire merci à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent régulièrement et qui acceptent de s'ouvrir à une autre façon de voir la Bible. Des fois, c'est un peu déstabilisant, mais je vous promets que c'est passionnant. Aujourd'hui, je vous propose un texte qu'on a souvent entendu dans toutes sortes de formes, mais qui a eu un impact majeur dans la culture occidentale, les 10 commandements. Bon, vous pouvez peut-être me dire qu'est-ce qu'il y a d'insolite dans ce texte-là, mais vous verrez que d'abord, il y a au moins 11 commandements, et puis qu'il y a une vision de la femme dans ce texte-là qui est assez particulière, pour ne pas dire très rétrograde. Mais on va essayer quand même de se laisser interpeller par la sagesse profonde transmise par ce texte. C'est donc les 10 commandements qui sera l'objet de notre émission. Cette semaine, j'ai reçu un message de Madame la Mère qui me demande d'où vient cette idée de travailler les textes insolites de la Bible. Eh bien, bon, d'abord, j'ai fait une maîtrise en études bibliques, dont c'est mon domaine, la Bible, et je travaille dans une école secondaire. Et j'étais assez fatigué d'entendre des élèves dire, quand je leur posais la question pour la première fois, comment ils trouvaient la Bible, ils disaient « Ah, c'est plate, c'est ennuyeux ». C'est ça qu'ils disaient. Bien, moi, je me suis donné comme mission de leur rendre la Bible intéressante. Parce que oui, il y a quelques passages qui sont moins intéressants, puis il y a certainement des façons ennuyeuses de l'interpréter, mais pour qui sait où aller chercher, la Bible peut devenir surprenante, parfois bizarre et fascinante. Alors, l'idée de présenter ces récits insolites vient donc de ces adolescents du Collège Saint-Jean-Vianney à Montréal, et régulièrement, des groupes d'élèves, après que je sois passé en classe, viennent me retrouver dans mon bureau, cognent à ma porte lors des récréations, des dîners, et me disent « on veut entendre des histoires bibliques. » Alors, bon, je sors ma Bible et je leur raconte. Et je leur raconte des histoires qu'ils trouvent assez intéressantes parce que des fois, ils arrivent et disent « Sébastien, là, on veut une histoire avec ben du sang. » Alors, je leur en trouve. Le livre des juges, entre autres, a toutes sortes de textes dans ce sens-là. Et sans le savoir, ils sont en train de mieux connaître la Bible et de commencer à la lire par eux-mêmes. Je fais le pari que si ces récits ont pu intéresser à la Bible des adolescents qui ont que peu de contact avec le monde religieux, mais je parie qu'ils vont aussi captiver un peu tout le monde. Que vous soyez familier avec la Bible ou simplement curieux, le fait de vous attarder à des éléments insolites vont peut-être renouveler votre intérêt et vous aider à comprendre la Bible. Bon, suite aux discussions avec mes élèves, j'ai écrit un livre aux éditions Novalis et Médiapol qui s'intitule « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible ». Et j'adapte le contenu de ce livre-là pour faire cette série d'émissions. Un petit mot pour remercier Madame la Mère pour cette question et de vous encourager à me contacter, que ce soit pour une question d'éclaircissement, pour me dire ce que vous avez appris ou simplement pour me donner vos commentaires sur l'émission. Le meilleur moyen pour me rejoindre, c'est le courriel de la station auditoire@radiovm.com. Au plaisir de vous lire. Dans la Bible, après le livre de la Genèse, on trouve le livre de l'Exode qui raconte la sortie d'Égypte du peuple hébreu sous la conduite de Moïse. Cette histoire, comporte de nombreux éléments insolites qui sont assez célèbres. Il y a la naissance de Moïse qui est assez particulière, le buisson ardent où on entend une voix de Dieu qui est transmise à travers un buisson en train de brûler, les 10 plaies d'Égypte, il y a toutes sortes de choses là-dedans, la fuite des Hébreux à travers la mer qui s'ouvre en deux devant eux. Il y a toutes sortes d'éléments insolites, mais on les connaît quand même assez bien. Je vais plutôt orienter notre réflexion sur un autre récit très connu qu'on entend parler de toutes sortes de façons, mais rarement on va dans le texte pour vraiment lire de quoi il s'agit. Le don des 10 ou plutôt des 11 commandements. Qu'est-ce que d'insolite dans ce récit-là? On va commencer par se replonger dans le contexte. 3 mois environ après leur sortie d'Égypte, les esclaves des Hébreux, se sont enfuis, puis ils avançaient péniblement dans le désert pour arriver au fameux mont Sinaï, aussi appelé l'Horeb. Moïse va y rencontrer Dieu. Puis pendant cette rencontre, le peuple ne peut pas s'approcher de la montagne sous peine de mort. D'abord, le peuple avait été sanctifié par Moïse, puis chacun doit laver son manteau et se garder d'avoir des relations sexuelles. C'est des recommandations assez particulières, laver son manteau puis ne pas avoir de relations sexuelles, mais semble servir à une préparation à un événement important. La rencontre a finalement lieu sur la montagne. On va écouter le prélude à la réception de ces 10 commandements. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, les versets 16 à 19. On écoute ça.
« Il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. La montagne de Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia. Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. »
C'est vraiment tout un spectacle son et lumière. Dans cette splendeur, Dieu va prononcer ce qu'on appelle encore les 10 commandements. On va écouter ce texte et essayer de les numéroter. Essayez de voir dans votre tête en l'écoutant, c'est quoi les différents commandements et combien qu'il y en aurait. Alors on écoute ça, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, les versets 2 à 17.
« C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur toi et 4 générations s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations si elles m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort. Que du jour du sabbat on fasse un mémorial et le tenant pour sacré. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapt, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, tu n'auras pas de visée ni sur la femme de ton prochain, ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain. »
Alors, on vient d'entendre les 10 commandements qu'on appelle aussi décalogue. Alors ça, c'est un mot grec qui veut dire 10 paroles. Pourtant, il semble y en avoir au moins 11. Pour arriver au nombre de 10, les différentes traditions religieuses ont toujours regroupé 2 de ces commandements-là ensemble. Or, ce qui est intéressant, c'est que la façon de regrouper les commandements fait ressortir les compréhensions différentes ou les accents qui sont mis par chaque tradition religieuse sur ce texte-là. On va regarder ça de plus près. D'abord, bon, l'introduction au texte est toujours considérée comme un commandement chez les Juifs. Alors, parce qu'il rappelle, il met l'accent sur la libération des esclaves en Égypte, qui est fondamentale pour eux. Alors que pour les protestants, les catholiques, on va mettre ça ensemble avec le reste du premier commandement. Puis, dans le texte qui suit, les catholiques vont regrouper les deux prochains commandements. Ne pas avoir d'autres dieux et ne pas se fabriquer d'images, d'idoles, d'images de dieux, de statues. Tout ça, ça va ensemble pour eux. Alors que la majorité des églises protestantes vont y voir deux commandements distincts. D'une part, ne pas avoir d'autres dieux, et d'autre part, ne pas se fabriquer d'idoles. Puis ils y voient une invitation au dépouillement des représentations religieuses. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une église protestante, mais vous avez probablement remarqué qu'ils n'ont pas de statue, peu ou pas d'image de la vie de Jésus dans leur église, que leur croix ne porte pas de corpus, ne porte pas le corps de Jésus. Alors, ils essaient d'être le plus dépouillés possible pour justement ne pas se fabriquer d'image de Dieu. Alors, c'est leur interprétation de ce commandement-là. Pour eux, dans leur façon de diviser les 10 commandements, ça devient un commandement distinct. Alors que pour les catholiques, ils vont garder ça ensemble, l'introduction, le premier et le deuxième, parce que pour eux, ben, ça recommande tout simplement de ne pas rendre un culte à un autre dieu et ça n'a pas nécessairement un objectif de limiter la production des représentations religieuses. C'est pour ça que chez les catholiques, on ne se gêne pas côté images, statues et autres. On en a beaucoup. Par ailleurs, si on continue à lire le texte, bon, les autres commandements, c'est assez unanime, la façon d'énumérer, il n'y a pas de problème, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin des 10 commandements. Et la partie de la fin est assez intéressante. Les catholiques, c'est à leur tour de diviser en deux un commandement qui va être pris comme un commandement pour les autres traditions. Les catholiques vont diviser, d'une part, la condamnation de la convoitise de la femme du prochain, et d'autre part, celle des autres possessions. Alors que dans le texte, ça semble aller comme... c'est une parmi d'autres, là. Mais les catholiques vont faire cette séparation-là pour donner une plus grande importance. Puis là, je vais citer le catéchisme de l'Église catholique. Cette séparation donne une plus grande importance à la pureté du cœur et à la pudeur. Ça semble être quelque chose qui est important pour la tradition catholique. Alors que les traditions juives protestantes vont y voir deux commandements distincts portant sur... c'est les catholiques qui voient deux commandements distincts. Les protestants et les juifs vont avoir un seul commandement portant sur le respect de la propriété des autres qui comprend la femme, mais aussi toutes les autres processions. À l'écoute, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de dire ces mots-là, moi, en tout cas, ça me choque un peu sur le rapport à la femme qui se dégage dans ce texte-là. Le dernier verset place la femme dans une liste de toutes sortes de choses qu'il ne faut pas convoiter. Elle arrive dans la liste juste après la maison et juste avant les serviteurs, le bœuf, l'âne et les autres possessions. Tant pis pour l'égalité des sexes. Bon, il faut se rappeler que la société de l'époque était très différente de la nôtre. C'était patriarcale et même machiste si on la compare à nous aujourd'hui. En ce temps-là, la femme faisait littéralement partie des possessions de son mari. Et elle n'avait que très peu ou pas de droits dans une société qui n'était pas très différente des autres sociétés du Proche-Orient ancien. Alors donc, ce n'est pas exclusivement en Israël que c'est comme ça. C'est un peu comme ça, un peu partout autour de cette région-là. D'ailleurs, moi, quand je lis ça, je me pose la question, est-ce que ce texte-là est aussi un texte qui doit être lu par les femmes? Parce que c'est clairement écrit pour des hommes. D'ailleurs, il y a un commandement, c'est « Tu n'auras pas de visée sur la femme de ton prochain ». À moins d'être homosexuel, une femme a rarement des visées sur la femme de son prochain. Est-ce que les 10 commandements s'appliquent aussi aux femmes? C'est une question qu'on peut se poser. Pourtant, quand on lit le reste de la Bible, on voit qu'il y a plusieurs passages qui montrent que les femmes doivent respecter les 10 commandements, même si ça a été écrit par des hommes. Par exemple, plusieurs condamnations de femmes pour adultère sont des exemples qui nous montrent que les 10 commandements, ça s'applique aussi aux femmes, même si c'est un texte écrit par des hommes pour des hommes. Bon, bien entendu, la place des femmes dans la société a beaucoup changé depuis l'époque. Sauf exception, la Bible a été écrite et transmise par des hommes. Pourtant, on y trouve quand même des personnages féminins importants et des hommes comme Jésus qui vont donner aux femmes une place plus grande que ce qui est traditionnellement octroyé aux femmes à cette époque-là. C'est juste au 20e siècle, alors c'est quand même assez récent, qu'on manifeste un intérêt pour la lecture féminine ou féministe de la Bible. Alors, depuis le 20e siècle, il y a des femmes qui sont devenues exégètes, qui sont devenues des spécialistes de la Bible et qui vont lire et interpréter la Bible de leur point de vue, d'un point de vue féminin. Comme les hommes et les femmes ont souvent des façons différentes de percevoir les choses, bien, leur interprétation a donné comme un nouveau souffle à l'exégèse moderne. Ceci étant dit, bon, après un peu de musique, on va regarder comment est-ce qu'on peut appliquer ces 10 commandements à aujourd'hui. Je pense qu'on peut essayer de trouver une sagesse malgré tout dans ce texte-là. Vous êtes avec Sébastien Dorn à l'écoute des récits insolites de la Bible. Aujourd'hui, nous parlons des 10 ou 11 commandements. On a vu avant la musique que la numérotation des commandements change, elle diffère d'une tradition religieuse à une autre, et que ce texte a été écrit dans une culture assez patriarcale. Mais si on s'arrête juste aux aspects insolites du décalogue, on risque de pas bien mesurer la richesse, la sagesse de ce récit-là qui a soutenu la réflexion morale de milliards d'êtres humains depuis des milliers d'années, en fait depuis 2000 ans. Les 10 commandements restent l'un des fondements de plusieurs systèmes législatifs. Encore aujourd'hui, il y a toutes sortes de pays que le départ de leur loi, bien, ça commence avec les 10 commandements. Mais c'est les éléments insolites dont on a parlé tout à l'heure nous rappellent qu'il faut interpréter justement un texte, qu'il faut commencer par essayer de le comprendre et pas juste l'appliquer automatiquement au pied de la lettre. Il faut essayer de voir dans quel contexte il a été écrit, qu'est-ce qu'il essayait de dire à l'époque, pour voir, nous, aujourd'hui, quand on le lit, qu'est-ce qu'il peut nous dire. Chaque commandement pourrait être l'objet d'une compréhension différente selon les personnes qui vont le lire, l'interpréter. Il faut surtout pas croire que notre interprétation, quelle que soit, est la seule acceptable ou objective. D'ailleurs, il y a eu des tonnes et des tonnes de livres décrits sur chacun des versets des 10 commandements et ils sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Les 10 commandements sont de nature à nous inspirer de plusieurs façons aujourd'hui. Moi, quand je lis ça, je vois plusieurs choses qui peuvent nous rappeler un chemin pour aller vers le bonheur d'une certaine façon. Puis je vais vous suggérer une expérience un peu comme dans le style des examens de conscience d'autrefois. Je sais pas si vous avez vécu ça avant, où il y avait un prédicateur qui posait des questions et c'était à nous de voir, bon, est-ce qu'on se sent concerné par ça? Est-ce qu'on a à demander pardon ou pas? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir quelques questions qui sont basées sur les 10 commandements et ça sera à chacun de nous de voir, bon, est-ce que c'est pertinent pour moi ou pas? On va commencer avec le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole. Comment est-ce que ça peut s'appliquer aujourd'hui? Mais moi, je crois que le cœur de ce commandement-là, c'est de poser la question de la place que je donne à Dieu dans ma vie. C'est quoi les idoles ou les faux dieux qui prennent trop d'espace dans ma vie personnelle? Ça peut être plein de choses. Les dépendances, la drogue, l'alcool, le sexe, Internet, le jeu, même le magasinage compulsif, la nourriture, etc. Il y a toutes sortes de choses dans notre vie qui prennent peut-être trop de place et qui ne laissent pas assez de place pour Dieu, tout simplement. Bon, un autre commandement, tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur. Bon, l'interprétation traditionnelle classique de ce commandement-là, c'est de ne pas jurer, de ne pas sacrer. Bon, c'est une chose, mais on peut aussi le comprendre d'une autre façon. On peut comprendre qu'il ne faut pas invoquer Dieu pour justifier n'importe quoi. Souvent, bon, je ne sais pas si vous avez écouté un peu de politique américaine, mais souvent on va mettre le mot de Dieu un peu partout et des fois on va même justifier nos propres préjugés, nos propres exclusions en disant que Dieu aussi il est d'accord avec nous, qu'il lui aussi va exclure. Par exemple, bon, le rejet des homosexuels, c'est un exemple assez fréquent. Moi, je crois qu'on ne peut pas justifier par un commandement de Dieu quelque chose qui est de l'ordre d'un préjugé personnel. Faisons attention et essayons de nous demander, est-ce que c'est moi qui ai ce préjugé-là ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui les exclut et qui les rejette? Posons-nous la question. Autre commandement, que le jour du sabbat, on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Bon, la question du sabbat, on voit comment les Juifs le vivent aujourd'hui. Nous, comme chrétiens, est-ce qu'on est encore tenu à de le vivre? Moi, je pense que c'est bien de se poser la question, est-ce que je prends un temps de sabbat, un temps de repos, sans travail. Un moment d'arrêt avec ma famille, un temps pour peut-être réfléchir à mon histoire personnelle, mon histoire, ma relation avec Dieu. Est-ce que je prends le temps de chercher Dieu dans ma vie? Dans le fond, c'est ça le sabbat. L'autre commandement qui suit, honore père et mère. Ça, je vous avoue que c'est un commandement que je trouvais assez louche quand j'étais petit. J'entendais ça à la messe, puis je disais, comment ça se fait que ça va juste d'un côté? Mais j'ai compris plus tard qu'il y a une réciprocité dans ce commandement-là qui implique l'amour des parents pour leur enfant. Bon, la question que je vous pose, est-ce que j'entretiens de bonnes relations avec mes parents? Est-ce que je les respecte? Est-ce que je les visite? Est-ce que je suis disponible pour les aider? Dans notre société aujourd'hui, c'est quand on compare à d'autres pays, d'autres façons de vivre en Amérique latine et autres, on voit qu'on est assez rapide pour placer nos parents et qu'ils se débrouillent avec leur vie. Nous, on ne veut pas se laisser embadrer par tout ça, on ne veut pas être encombré par leur présence. On veut, dans le fond, c'est de dire on ne veut pas s'occuper d'eux. Et je crois que ça peut être quelque chose qui est questionnant. Donc, le commandement honore père et mère, c'est pas nécessairement juste de respecter l'autorité paternelle, comme on disait peut-être à l'époque, mais plutôt d'honorer ceux qui nous ont donné la vie, qui nous ont donné l'amour, et essayer d'être disponible pour être là avec eux et prendre du temps pour eux. Pas de meurtre. Ça, c'est un commandement clair. Hein? Puis, bon, la majorité des auditeurs, j'espère que vous avez jamais commis cet interdit-là, pas de meurtre. Mais je crois qu'on peut penser à une portée plus large pour ce commandement-là qu'on pense. Tuer quelqu'un, bon, on peut avoir des personnes qui sont tuées de façon personnelle, mais peut-être qu'il y a quelque chose de collectif aussi à ce commandement-là. Par l'absence de programmes sociaux, par la pollution, par la peine de mort, peut-être qu'on tue collectivement. On n'y pense pas, hein? Mais quand j'utilise ma voiture puis que je pollue, peut-être que c'est cette même pollution-là qui va finir par tuer quelqu'un qui a des problèmes de santé. Même chose avec les programmes sociaux. Il y a des personnes qui vont peut-être mourir parce qu'il n'y a personne qui prenne soin d'eux, etc. Ne pas commettre de meurtre, je pense qu'il faut aller plus loin puis essayer de faire tout ce qu'on peut pour aider à la vie. Pas d'adultère, un autre commandement qu'on peut penser de façon très personnelle. Mais en ces temps où le mariage est presque devenu une exception, c'est quoi ma façon de vivre ma sexualité? On peut se questionner là-dessus. Est-ce que j'aime correctement, dans le respect de l'autre? Est-ce que j'aime aussi dans le respect de moi-même, dans tout ça? Est-ce que je me respecte? Puis même quand ça va mal dans mon couple, est-ce que je fais ce que je peux pour essayer de pardonner l'autre? Est-ce que je fais ce que je peux pour que l'amour grandisse et continue et demeure? C'est vraiment pas évident aujourd'hui dans notre société. Un autre commandement, un peu comme pour le meurtre, il y a le commandement de ne pas commettre de vol ou d'enlèvement. Ben, le vol, c'est pas juste un crime individuel. Hein? Bon, il peut être social parfois. Moi, je crois qu'on ne respecte pas ce commandement lorsqu'on laisse des personnes profiter de toutes les ressources de la planète. Vous le savez, il y a juste un petit pourcentage de personnes qui détiennent toutes les ressources de la planète, au détriment des plus pauvres qui, eux, au contraire, sont une majorité de personnes qui n'ont presque rien pour vivre. Alors le vol, c'est pas juste un vol personnel, mais moi je pense qu'il y a quelque chose de collectif, de social dans tout ça. Et à quelque part, on est impliqué là-dedans sans le savoir. Hein. Moi, j'ai des fonds de pension qui ont des actions dans des compagnies qui exploitent des personnes sans leur donner un salaire décent, des compagnies minières canadiennes en Amérique latine, par exemple. Alors quand un pays est exploité par d'autres pour ses richesses naturelles, c'est une forme de vol, ça aussi. Alors quand on réfléchit sur les 10 commandements, souvent on va juste prendre ça au niveau personnel, moi, mais on est impliqué dans quelque chose de social et il faut justement essayer de répartir les richesses de façon la plus juste possible. Bon, deux autres commandements, ne pas rendre de faux témoignages. À l'heure des publicités mensongères, des demi-vérités, des politiciens qui disent toutes sortes de choses, des procès qui paraissent souvent plus ou moins équitables ou justes, la valeur sacrée de la parole est vraiment à redécouvrir. Et finalement, un dernier commandement, ne pas avoir de visée sur les possessions de ton prochain. Est-ce que moi je suis heureux avec ce que j'ai ou est-ce que j'envie toujours ce que mon voisin possède? Est-ce que je me laisse attirer par la surconsommation? Puis là, je vais citer un livre de Joan Chittister, ça c'est une théologienne féministe justement des États-Unis, qui a écrit un excellent livre sur les 10 commandements. Et elle dit « Ce n'est pas ce que nous n'avons pas qui nous rend malheureux, c'est ce que nous voulons qui nous rend inattentifs à ce que nous avons. » Je vais le redire, c'est très important. « Ce n'est pas ce que nous n'avons pas qui nous rend malheureux, c'est ce que nous voulons qui nous rend inattentifs à ce que nous avons. » C'est déjà le moment de se dire à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié ces réflexions autour du décalogue. Pour aller plus loin, Vous pouvez lire les récits et les réflexions qui sont abordées dans l'émission dans un livre qui est intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des réactions, des questions, des commentaires, gênez-vous pas, écrivez-nous. On prend toujours un temps au début de chaque émission pour vous lire. Alors, vous pouvez me rejoindre à auditoire@radiovm.com, mais aussi par courrier régulier ou le téléphone habituel de la station. Lors de la prochaine émission, on va parler d'un homme qui a été exécuté par Dieu, foudroyé, comme ça, pour avoir tenté de sauver l'Arche de l'Alliance pourtant. En terminant, merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre écoute attentive. Merci à Marie Laferrière pour ses lectures bibliques. Et merci à Alain Primo à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À la prochaine.